Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nous sommes en 2025, donc meilleurs vœux à tous les devs. Voilà. Et comme d'habitude, bah, nous sommes avec Alex. Salut Alex!
Salut Patrick, salut tout le monde. Et évidemment, on vous souhaite une bonne année, tout ça, tout plein de codes, tout plein de trucs, des bons projets digitaux, mais aussi IRL, quoi. Dans la vraie vie, c'est important aussi de faire autre chose à côté, trouver le bon équilibre. Néanmoins, nous, on va continuer en 2025 sur notre lancée sur les podcasts, aussi bien sur tous les réseaux, que ça soit pure audio sur Spotify, Deezer, Google Podcast, qui n'existe plus d'ailleurs, qui a été
Non.
remplacé par YouTube. Mais en tout cas, en audio, directement sur le site, vous pouvez aussi nous retrouver. Et évidemment, sur YouTube, si vous voulez profiter de la vidéo. Et donc, un grand merci pour déjà toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis toutes les années. Toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement aussi. Et tous ceux qui nous aident et qui nous donnent de la force avec des petits pouces, des petits commentaires. Et qui partagent évidemment les liens et l'émission. Avec les collègues,
Ouais.
les amis et tous les développeurs pour gagner en fait en influence, même si on n'a pas du tout pour but d'être des influenceurs. On est bien d'accord, Patrick?
Non, du tout. On n'est pas du tout
Surtout
des
pas,
influenceurs.
surtout pas,
On est
surtout pas.
surtout des développeurs.
Exactement, exactement.
Ouais, nouveauté. Alors, comme ça, je me mets un peu la pression, tu vois. Nouveauté qu'on va mettre en place d'ici. Allez, je me mets une deadline fin de semaine.
Wow.
Donc, normalement. Au moment où vous allez découvrir le podcast, ça sera peut-être sur le site. On va mettre un champ pour s'inscrire à une newsletter, en fait. Donc, vous mettrez votre email. Le but, ce n'est pas de faire une newsletter quand vous envoyez toutes les semaines ou un truc comme ça. Le but, c'est à chaque épisode, en fait, c'est de vous prévenir bah, que l'épisode est sorti avec les liens et les notes de quoi on parle dans l'épisode, etc. Donc, c'est vraiment pour vous prévenir. Et vous, voilà, comme ça, vous êtes au courant dans les premiers, voilà, pour que l'épisode est sorti. Vous pouvez de suite l'écouter. Pas besoin d'aller sur YouTube ou tout ça, quoi.
Et vous récupérez l'intégralité des notes de l'épisode avec tous les liens. En fait, si on aborde un sujet, on met souvent le lien. Et là, vous récupérez directement le lien accessible dans votre email que vous pouvez archiver, structurer pour structurer votre veille. C'est un outil encore plus. De quoi on va parler aujourd'hui, Patrick?
Eh bien, en fait, alors il faut savoir qu'Alex, il a plein d'idées pour faire des épisodes. Hein. Si j'écoutais, on en ferait un tous les 2 jours. Mais sur l'IA, il m'en a parlé il y a un petit moment. Donc en fait, moi, je n'étais pas prêt encore. Voilà, je ne m'étais pas mis profondément dedans, tout ça maintenant. Là, c'est bon, je m'y connais un peu plus. Donc je suis prêt.
Top.
Et donc, ça sera le premier épisode, certainement, on va dire, d'une série, puisqu'on va certainement en faire plusieurs tout au long de l'année. Enfin, voilà, on ne se donne pas de régularité particulière, mais voilà, on en fera un assez régulièrement, on fera où on va parler d'IA, tout simplement, parce que c'est obligatoire. On est dev,
Ah, je
l'IA, ça
pense
devient.
qu'aujourd'hui, en
Ouais.
2025, on est obligé de traiter de l'IA. Après, l'idée de cette série, en fait, c'est vraiment de jumeler le travail de dev avec le travail, avec cette nouvelle donnée qui est arrivée sur le marché, qu'aujourd'hui, on ne peut plus nier qu'elle est là. Elle est là, ça s'inscrit dans la durée. Elle fait partie intégrante aujourd'hui de notre travail. Néanmoins, on a considéré que c'était intéressant aujourd'hui, ça sera le premier épisode de la série. Et donc, ça nous paraît intéressant de poser vraiment les fondations, de savoir de quoi on parle quand on parle d'IA. Et donc, on va faire de la pédagogie, on va dire de vocabulaire, de bien comprendre comment ça marche et comment nous, en fait, en tant que développeurs, on peut tirer profit de toute cette de tout ce nouveau champ qui s'offre à nous. Mais pour l'instant, en tout cas, on ne va pas aborder le sujet vraiment deep tech, comment marche un modèle, comment on construit un modèle, tout ça. On va vraiment être plus, en tout cas aujourd'hui, sur l'utilisation, sur bien comprendre les mots, le vocabulaire, pour qu'on puisse, nous, en tant que développeurs, quand on crée des applications, qu'on puisse en fait utiliser ces modèles-là et juste de savoir de quoi on parle, en fait, tout simplement.
Ouais, mais ici, voilà, on va parler pour les devs, pas de bullshit, on va pas faire du prompt engineering,
du prompt engineering,
ou des choses comme ça. Voilà, il y en a assez déjà sur YouTube des vidéos bullshit, donc nous on va faire un vrai truc sur voilà, pour les devs, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'IA en tant que dev. Voilà.
Yes. Allez, on attaque gros programme, ouais. Évidemment, qui est le début d'une série qui sera sans doute beaucoup plus longue et on va comme ça dérouler. Par quoi on attaque sur quoi
le plus simple.
On va commencer en fait.
Bah, le plus simple, c'est comment, quand on veut développer un truc un peu basé sur l'IA, où on va utiliser un modèle, le plus simple, c'est quoi? En gros, c'est utiliser les API payantes, en fait. OpenAI, Anthropic, etc. Google, on peut en citer plein. Mistral, etc. Donc ça, c'est la partie facile. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de connaissances particulières, en fait, pour brancher quoi que ce soit. La plupart, là, donc là, on parle de modèles fermés, hein. OpenAI, tout ça, c'est vraiment des modèles fermés où on a accès à une API, tout simplement. Donc, il y a une doc, etc. L'avantage, c'est que déjà, c'est dispo dans plusieurs langages, même dans PHP. il y a des librairies disponibles dans PHP où ça te permet de te connecter avec OpenAI et tu mets ton token, machin de connexion, et puis tu arrives à faire de l'inférence, envoyer des prompts, il va te répondre, etc. Donc, ça te permet quand même de pouvoir proposer au niveau de tes développements, ne serait-ce que, imagine, tu as une admin, tu veux faire faire un résumé ou des choses comme ça, ou traduire automatiquement du texte. Enfin, voilà, il y a plein de choses possibles, en fait, déjà avec ces API.
Après, tu as utilisé le mot inférence, et c'est vrai que ça, c'est oui. Déjà quelque chose qui est spécifique vraiment au cœur de l'IA. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un modèle, en fait, c'est des énormes bases de données qui ont été intégrées. On a mis plein de modèles, plein d'informations pour entraîner un modèle à une tâche spécifique. Et donc, ce modèle, il a été entraîné. Donc ça, c'est la première, on va dire, c'est la première partie vraiment pure entraînement, où on lui a donné des informations. Ce modèle-là a été entraîné à exécuter une tâche. Donc, ce qu'on connaît le plus, qu'on a entendu parler, c'est ChatGPT. C'est ce qu'on considère dans les modèles de LLM, Large Language Model. En clair, c'est un modèle qui est capable de générer des phrases. Donc, en clair, c'est comme s'il savait parler. On lui a donné à manger plein d'informations, des règles de grammaire, du texte, plein de choses. Et lui, il est capable d'exécuter et d'écrire du texte. Par contre, c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux phases. Il y a la phase d'entraînement et il y a la phase d'utilisation. Et en fait, l'utilisation d'un langage, d'un modèle de large language model ou l'utilisation d'un modèle général, c'est ce qu'on appelle l'inférence. C'est je viens utiliser un modèle. C'est pour ça qu'on va trouver un peu partout dans le vocabulaire. En fait, on va utiliser souvent l'inférence. Et donc, c'est l'utilisation d'un modèle. Donc, nous, en tant que développeurs, on va pouvoir facilement utiliser ces modèles-là et en fait faire appel à cette inférence-là, faire de l'inférence pour utiliser ces modèles. Et comme tu dis, ouais, la solution la plus simple, c'est de se brancher directement vers les gros acteurs qu'on connaît tous, OpenAI. Mmh. On a aussi Anthropic qui est aussi solide. Et avec tous ces modèles Claude Sonnet, et donc on connaît tous les évolutions des modèles. Et on va avoir aussi ceux de Meta avec donc qui sont les Llama, Llama 3, Llama,
Lama,
voilà. Ouais. Et chez Google, c'est quoi? C'est Gemma, je crois.
Gemma, il y avait Gemini aussi, je crois.
Ouais, Gemini. Après, ils ont changé de nom, donc les mecs, ils
ouais, s'embrouillent tout le temps
de nom. ils s'embrouillent pas eux-mêmes, mais en tout cas, c'est plus, ils changent le nom, quoi.
Ouais, il y a une chose que tu as dit, c'est important. C'est là, on parle d'LLM, donc on parle vraiment d'IA générative. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, mais c'est l'IA générative qui est, voilà, avec tout ce qui est ChatGPT et compagnie, qui a vraiment mis ça en lumière. L'IA existe depuis longtemps et on va dire maintenant, on appelle ça plutôt l'IA classique, ce qui existait déjà avant. Voilà, il y a beaucoup de boîtes qui utilisaient déjà l'IA, hein, et aujourd'hui on parle beaucoup d'IA générative, donc tout ce qui est voilà, LLM, etc. Donc c'est vrai que là on parle d'API payante, mais on parle beaucoup de, enfin, on parle principalement d'API, d'IA générative. Et ensuite, il faut savoir que ces modèles sont assez énormes. Alors pour l'instant, on a une course, c'est un peu la course au plus gros, qui a la plus grosse en gros, quoi. Et donc on se retrouve avec des modèles gigantesques en fait, généralistes. Et souvent, alors c'est cool parce que c'est pratique de se connecter à l'API, c'est pas très cher non plus quand tu prends un modèle, quand tu restes dans un modèle classique, GPT-4, des trucs comme ça. Par contre, ça reste quand même des gros modèles, donc tu fais quand même, c'est un peu comme aller chercher son pain avec un tank, quoi, en gros, quand tu fais des tâches simples. Donc il faut quand même avoir conscience de ça, que là on fait tourner des énormes modèles pour faire des tâches hyper simples. Donc voilà. Après, faut juste en avoir conscience de voilà, qu'est-ce qu'on a derrière ça.
Après, ce qui est intéressant et ce qui, pour nous, en fait, va nous donner un petit peu plus de granulométrie sur notre métier, en fait, c'est plus on va avoir un modèle qui va être entraîné sur une tâche spécifique, plus ce modèle-là, il va être précis dans ses réponses. Et comme tu l'as dit, c'est des modèles très, très généralistes. Par contre, on va avoir sur certains modèles, par exemple, je pense à Sonnet sur Claude ou à Mixtral, en fait, c'est des LLM qui sont vraiment orientés pour le code. Donc, pour nous, en fait, ça va être super intéressant d'utiliser un LLM spécialisé déjà dans le code parce qu'il a été entraîné avec des bases de code. On lui a injecté la documentation, on lui a injecté du code, plus ou moins de qualité, on est bien d'accord. Mais on va déjà avoir un LLM qui est plus spécifique pour nous. Donc, si on pose des questions orientées code, autant se brancher directement sur un LLM qui a été entraîné sur une base de code, parce que la pertinence des réponses, l'inférence, quand on va poser la question, le prompt, la question, on aura une réponse beaucoup plus qualitative, parce que le dataset a été entraîné, le modèle a été entraîné avec un dataset, un jeu de données qui est vraiment spécifique pour ça.
Ouais, carrément. Et justement, pour en revenir encore à ça, le marché justement face à ces énormes modèles, tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils les entraînent de plus en plus. Tu vois, on a toujours plus de paramètres, etc. Et on est arrivé à une sorte de plafond, en fait, où là, les modèles, on a beau leur faire bouffer plus de données, ça ne donne plus de meilleurs résultats. Donc en fait, le marché est en train de se diriger sur des modèles plus petits et spécifique sur des tâches. Et c'est exactement ce que tu dis, voilà. Sur un modèle spécifique qui a été entraîné pour du code, il sera vraiment meilleur que GPT-4 ou des choses comme ça sur le code parce qu'il a été entraîné dessus. Et donc le marché est vraiment en train de partir là-dessus, sur des modèles plus petits qui seront spécifiques à des tâches, qui ont été entraînés pour des trucs. Et voilà, ça semble se diriger là-dessus dans les prochains, en tout cas en 2025.
Yes. Et pour rebondir en fait sur la spécificité des modèles, donc chaque modèle en fait va avoir des tâches spécifiques. Et il y a, on va dire, en tant que développeur, on connaît tous GitHub, on va dire, ou GitLab. Ouais. Là, vraiment, le GitHub des modèles IA, ça s'appelle Hugging Face. On ne peut pas faire sans, en fait. C'est vraiment le GitHub des modèles. Et en fait, à l'intérieur, on va trouver en fait tous ces modèles-là qui vont être répertoriés. Donc, pour la plupart du temps, c'est des modèles qui vont être soit ouverts, soit fermés. C'est-à-dire que le modèle est déjà entraîné et tu vas pouvoir l'utiliser. Ou toi, tu vas pouvoir aussi l'augmenter avec tes propres données ou un dataset qu'on va retrouver, où tu vas pouvoir télécharger un dataset pour toi-même entraîner ton modèle. Par contre, là, on va discuter et on va parler justement de tous les problèmes que ça amène en termes de puissance de calcul et de ressources énergétiques qu'il faut. Mais je reviens sur les modèles. Ouais. Et quand on voit la liste des modèles, on peut les chercher par nom, mais mais surtout, en fait, on va pouvoir avoir plein de modèles qui vont avoir des tâches spécifiques. Et on va pouvoir, en fait, poser des questions. On va lui donner à manger une photo. On va pouvoir poser une question sur cette photo. Donc, ça va être de l'audio, du texte, des images vers du texte. Et ça, c'est ce qu'on appelle des multimodales, parce qu'on va lui donner à manger non pas seulement du texte, mais on va lui donner en fait une vidéo ou une image, un son, et lui en fait il va pouvoir analyser ça et le transformer en quelque chose d'autre. C'est d'où l'intérêt en fait de faire audio texte ou texte, de image texte ou texte. Donc c'est-à-dire qu'il va prendre l'image, il va analyser l'image, il va la transformer en texte et la réponse qu'on va avoir sera du texte. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les modèles multimodales. Et qui vont aussi, je pense à OpenIA qui a sorti un modèle qui s'appelle Sora, qui lui en fait va pouvoir créer des vidéos à partir d'un texte, d'un prompt. Et donc voilà, fais-moi un 4:4 en 16:9 avec une résolution de temps qui roule dans le désert et qui fait des gerbes dans les dunes. Donc plus on va être précis, plus il va générer l'image. Donc ça, en fait, c'est des modèles qui utilisent des images, des textes, des sons. C'est ce qu'on appelle des multimodales. Et après, en fait, on va avoir plein d'autres modèles qui vont être entraînés à des tâches, par exemple, bien plus spécifiques où je vais lui donner une image, il va me sortir en fait la description de l'image précise en texte. Voilà, c'est très, très, très précis, mais ça va être hyper intéressant pour, par exemple, faire de la classification de photos ou des choses comme ça. On va avoir évidemment tout ce qui est texte entrée, texte sortie, c'est-à-dire toutes les fonctions qu'on connaît de résumé. Je vais lui donner un texte, tu vas me sortir un résumé, tu vas faire le résumé du résumé et ainsi de choses. Ou juste écris-moi de la poésie ou des choses comme ça. Et donc, toujours est-il que dans ce Hugging Face, on va trouver tous ces modèles-là qui sont plus ou moins disponibles et qu'on va pouvoir utiliser. Mais il faut bien comprendre que chaque modèle va avoir une tâche spécifique. Et donc ça, c'est intéressant. Et je vous invite à regarder, si vous voulez, sur la génération d'images. On connaît tous les images les plus connues. Ça va être Stable Diffusion. Vous allez avoir d'autres images directement sorties de OpenIA. Par contre, il y a un modèle qui est hallucinant qui s'appelle Black Forest Lab. Et là, ils ont sorti quelque chose qui s'appelle Flux. Donc, il y a des Flux 1, Flux Dev, Flux machin. Sur la qualité des rendus d'images, c'est vraiment bluffant. Donc, si vous utilisez des images, regardez Flux de la société ou de la boîte qui s'appelle Black Forest. Très, très, très qualitatif.
Yes. Bon, alors, vas-y. GitHub.
Hugging Face.
Comme tu l'as dit, en fait, c'est le GitHub de tout ce qui est IA. Et justement, parce que ça s'utilise vraiment comme GitHub, en fait. Tu peux faire un Git clone, etc., de modèles, de datasets, etc. Donc, l'usage est assez simple dans l'ensemble. Et comme tu l'indiquais, dans les modèles, si on regarde sur le nombre de modèles, il y a plus d'un. Enfin, je sais pas, c'est 1 million, c'est énorme. Hein. Combien ? 1 284 690, voilà, c'est juste énorme. Et justement, comme tu disais, chaque modèle a sa spécificité et il est spécifique à une tâche, en fait. Donc, c'est évidemment, il faut vraiment prendre le modèle qui correspond à ce qu'on veut faire. Et il y a aussi, pareil, quand tu fais de la génération de texte, tout ça, ou de texte classification, tout ça, il y a un truc qui est super important, évidemment, en tant que français, c'est le langage.
Et oui.
C'est con, mais en fait, il est très important, en fait, de prendre un langage qui est multilangue quand tu veux faire des choses au niveau du texte, tout ça, sinon il va rien comprendre, en fait. Donc, quand tu fais ton choix, en fait, comme tu l'expliquais, là, tout ce qui est à gauche, en fait, c'est vraiment un tri pour trouver le modèle qui correspond à ce que tu as besoin, français, classification de texte, etc., ou génération d'images, ou n'importe quoi. Et après, derrière, c'est vraiment facile de l'utiliser. Donc, je sais pas si tu peux rentrer dans un modèle pour voir, mais...
Ouais, bien sûr.
Alors, normalement, tu peux utiliser ce modèle. Par exemple, là, c'est un truc de Microsoft. Je ne sais pas à quoi il sert, celui-là.
Phi 4.
Texte génération. apparemment.
C'est vraiment le tout petit modèle qui est pour embarquer dans les sites. Dans les sites où alors, on va dire un visual question, alors, on va poser la question sur une image et qu'importe. Mais ouais, tu veux voir quoi après?
Ouais, n'importe, c'était pour voir, en fait, pour voir un petit peu ce qu'on a en fait sur une fiche de modèle.
Ok.
En fait, comment on l'utilise, parce que c'est assez simple, hein. Alors, l'idée, c'est de l'utiliser dans un premier temps sur votre ordinateur. Donc, on a Use this model qui est à droite là, et là il nous donne des exemples de code en fait en général. Donc ce soit la plupart c'est en Python, mais il y a aussi des exemples en JS. Ça on y viendra après, mais au niveau du langage, majoritairement c'est du Python. Et il y a pas mal de JS aussi, de TypeScript, mais c'est vraiment voilà. Et donc à partir de là en fait on va cloner ce modèle en fait sur notre ordinateur et on va pouvoir l'utiliser directement sur l'ordinateur.
Par
donc,
contre,
on va utiliser le processeur.
C'est quand même pas super évident de faire tourner ton modèle et en fait de faire ta propre inférence, c'est-à-dire de prendre ton modèle et de l'installer sur ta machine et de faire tourner ton modèle sur ta machine. C'est un peu la plaie quand même, non? Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment la plaie parce que tu es obligé de te taper ton installation de Python. Sauf que ton modèle, il a été entraîné avec une certaine version de Python, donc tu ne peux pas le faire tourner et tu n'as pas la bonne version de Python, donc tu télécharges la version de Python. C'est quand même galère, je trouve, non? Non, t'es pas d'accord avec moi. T'as
Non,
pas le
j'ai pas eu trop
droit.
de problème. Bah, avec Python, ça va. Je trouve que bah, j'ai pas eu ce problème de version de Python. Mais par contre, après, le modèle, quand tu utilises le code d'exemple, là, déjà, il te charge automatiquement le modèle, en fait. Bah, c'est sûr qu'après, tu vas te retrouver avec. Si tu te fais beaucoup de tests, comme j'ai fait moi, par exemple, il y a pas longtemps, au bout d'un moment, ton ordi commence à être surchargé de modèles, plusieurs gigas. Donc, ça, faut faire gaffe. Et puis surtout, ouais, ça fait tourner le processeur, suivant ce que tu veux faire. C'est sûr que si tu veux faire de l'image, voilà, génération d'images, tout ça, là, ton ordinateur va pas mal chauffer.
Ouais.
Donc, mais après, ça permet quand même de tester des modèles, de voir si ça correspond à ce que tu veux faire, tester des petites tâches, tout ça. C'est pas mal.
Ok. Mais y a quand même moyen de faire autrement pour installer en local ta
Ah!
propre
Attends, on finit sur Hugging
tes propres modèles. Ok. Alors on reste sur Hugging Face. Ok.
Non, on reste sur GreenFace, ça t'as envie de faire. On fait quand même le tour du GreenFace parce que c'est quand même un site qui est super important et vraiment qui est un gros acteur en fait au niveau de l'IA et surtout que c'est un site français à la base. Enfin, français, c'est des
Ouais,
Français qui ont créé ça.
c'est des Français. Par contre, ils se sont expatriés pour pouvoir sortir. Et je pense que en France, ça n'aurait jamais pu sortir de terre, ce projet-là. Ils ont réussi à
C'est clair.
sortir et à en faire ce qu'ils en ont fait parce qu'ils étaient aux US. Et c'est triste, mais c'est comme ça.
Ah oui, c'est clair, c'est clair. Donc après ces modèles, en fait, on peut aussi les entraîner. Donc là, ça s'appelle du fine tuning. C'est-à-dire, alors on va expliquer ce que c'est le fine tuning. C'est-à-dire que là, la plupart des modèles qui sont disponibles sur GreenFace, ils ont déjà été entraînés. C'est pas des modèles qui sont de zéro. Donc ils ont déjà été entraînés sur des tâches spécifiques. Alors, mis à part les images, parce que là, ça devient plus compliqué à l'entraîner, mais par exemple sur du texte, on va utiliser des datasets. Donc c'est pour ça qu'il y a l'onglet dataset dans Hugging Face aussi. Donc il y a plein de datasets qui sont déjà disponibles. Et en fait, on va sur votre ordi toujours, vous allez télécharger le modèle, télécharger le dataset. Donc c'est pareil, hein, c'est git clone dataset, git clone modèle. Et ensuite, vous pouvez créer votre dataset aussi. Alors dataset, c'est hyper simple, hein, c'est du texte avec éventuellement un label. On va entraîner le modèle. Alors je vais pas faire un tuto parce qu'il y a pas mal de docs là-dessus. Et puis c'est pas le but de cet épisode. Mais vous pouvez voilà, entraîner, voilà l'exemple d'un dataset. On peut entraîner votre modèle. Vous allez entraîner votre modèle sur votre ordinateur, etc. Ça va le sauver et ensuite vous le renvoyez donc dans votre répertoire sur Hugging Face. Et à partir de là, vous avez un modèle qui a été fine-tuné sur des datasets spécifiques qui vous correspondent.
Donc, en fait, tu es en train de me dire que potentiellement, on pourrait faire notre propre modèle basé sur nos propres data. On a pris un modèle qu'on a enrichi, qu'on a fine-tuné avec nos propres données et on le réinjecte. Ce qui fait que quand on lui pose une question, eh ben, en fait, no no notre inférence a pris en compte en tout cas, l'inférence a pris en compte toutes nos données qu'on a injectées dans notre modèle. C'est ça?
Ouais, c'est ça. Après, ça dépend le modèle que tu fais. Si tu fais de la classification de texte, moi, j'avais fait un test sur détecter du spam, par exemple. Donc, il me disait si un texte était du spam ou pas pour les emails, par exemple. Mm-hmm. Ou alors, tu peux, oui, l'entraîner sur des datas. Enfin, on pourrait très bien l'entraîner sur tous les épisodes de podcast double slash. Ouais. Et après, lui demander de générer, par exemple, des notes de l'émission, des choses comme ça, un autre style. Enfin, voilà, il y a plein d'idées faisables. Mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est assez accessible à faire. Alors, c'est en Python, par contre. Donc, il faut apprendre un petit peu.
Il faut quand même maîtriser le langage, quoi. Ouais.
Ouais, mais c'est pas un langage très compliqué. Il est assez concis et simple. Si tu fais du JS, ouais, ça va, t'arrives à t'en sortir. Mais ouais, pour dire que vraiment, c'est accessible en fait de pouvoir fine-tuner un modèle qu'on trouve sur Hugging Face, des datasets, ou créer son dataset et puis le réinjecter dans. Alors, quand on a un compte gratuit, le modèle qu'on va fine-tuner, il sera forcément open source, enfin, il sera forcément ouvert. Il n'y a pas de privé. Mm-hmm. Et ensuite, si tu veux le mettre en privé et le garder pour toi, là, par contre, il faudra un compte payant et GinFace pour qu'il ne soit pas visible, en fait.
Ouais, c'est un peu le même délire que comme, comme sur GitHub, quoi.
GitHub.
Ouais, bien sûr.
À l'époque, maintenant, on peut avoir du privé en gratuit, mais...
Ouais, c'est vrai.
Voilà, donc GinFace, super plateforme qui vous permet quand même de faire des choses super intéressantes, accessibles. C'est pas très compliqué, il y a beaucoup de ressources dessus. Il y a toute une section Learn, donc apprentissage, tout ça. Ils expliquent comment ça fonctionne et tout. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Donc, très bonne plateforme. Yes. Et ensuite, il y avait aussi le Spaces, où il y a des modèles qui sont déployés et utilisables. C'est des exemples, il y a plein de modèles. Voilà, c'est des Spaces. Y a plein de modèles qui sont déjà là, dispo. Tu peux les faire tourner. C'est une interface. Tu as un champ texte si c'est un texte. Tu as un champ image. Tu peux télécharger une image. Et tu vois en fait le résultat. Tu peux les tester en fait.
Ok. Donc en fait, c'est une inférence qui est directement via leur interface. Donc tu n'as pas besoin de passer par une API ou quelque chose. C'est directement, tu utilises le modèle via l'interface graphique qui s'appelle, dans Hugging Face, qui s'appelle Spaces.
C'est ça. Donc, une fois que tu as fine-tuné ton modèle et que tu l'as remis dans ton repo, tu as créé ton repo, il y a ton modèle qui est fine-tuné, tu peux le déployer dans Spaces. Alors, il y a une sorte de framework, Gradle, je crois qu'il s'appelle. Il y a deux, trois frameworks qui te permettent justement facilement de faire ces champs textes, etc. Et à partir de là, tu peux tester ton modèle. Voilà.
Okay.
Et il donnera les résultats, tout ça. Et tout le monde peut le tester puisque tu es en modèle ouvert. Donc voilà, il devient disponible et tout le monde peut s'amuser avec.
Ok. Par contre, peut-être que tu n'es pas prioritaire sur la demande, sur la ressource que tu vas demander. Voilà, ça va peut-être prendre du temps. Par contre, c'est un super moyen de un peu bêta-tester le truc, de voir comment ça fonctionne. Et avant de le mettre... En tout cas, d'utiliser ce modèle avec une inférence spécifique avec toi-même, ton propre endpoint, là, en fait, tu utilises l'interface graphique pour crash-tester un peu le truc, quoi.
Ouais, c'est pas des trucs, des foudres de guerre, donc c'est souvent un peu long, des fois, là, d'avoir la réponse. Mais en même temps, c'est gratuit, on va pas se plaindre. Ouais,
bien sûr.
Et dernier truc, super intéressant aussi, c'est que quand tu as fait ton modèle, tout ça, machin, il est dispo, tu peux le déployer. Donc, t'as le bouton deploy. Et tu peux le déployer sur l'inférence API, l'inférence endpoint, où là, tu as un serveur que tu vas payer. Et c'est magique parce qu'en fait, ça déploie ton modèle et il est disponible immédiatement via une API. Alors, tu vas payer, évidemment. Mais tu n'as rien à faire, en fait. Ton modèle est déployé et tu as une API, tu vas appeler et faire des appels dessus direct.
Okay.
Ça, c'est assez fou.
Et donc là, en fait, on voit la requête en Python, si j'utilise la librairie Python, ou une requête directement en JavaScript ou en curl directement. Et là, en fait, j'ai un endpoint avec mon propre token. Et donc ça, je peux le copier ça dans mon code et en fait, je peux utiliser ce modèle-là directement dans mon API, dans mon programme, de manière inodore, incolore, et j'ai externalisé toute la ressource Et donc, j'ai externalisé l'inférence, l'utilisation de ce modèle directement à Hugging Face. Et comment ça marche ? Tu payes à la seconde, au token ? Comment
alors,
ça marche ?
Attends, quand tu vas dans Deploy, là, tu as deux trucs. En fait, tu as l'inférence API. Alors ça, c'est une inférence qu'on peut utiliser limitée quand tu as un compte gratuit et un peu plus grande quand tu as un compte payant.
Okay.
Alors que l'inférence endpoints, ça, c'est vraiment un serveur dédié pour toi où tu vas utiliser en production. Et okay. Là, tu vas payer vraiment... en fait, tu vas choisir la machine un peu, ce que tu veux, du GPU ou pas, du CPU. Enfin, ça dépend de tes
moyens. D'accord.
Et là, tu vas pouvoir le déployer dessus et l'utiliser vraiment. Et là, tu auras un serveur derrière qui va dépoter, quoi.
Okay.
Et après, super intéressant, c'est que peu importe le tarif, alors évidemment, c'est plus ou moins cher suivant ce que tu prends comme puissance, mais tu peux le mettre en pause, en fait. C'est-à-dire que tu as, à un moment donné, tu as de la classification de texte ou tu dois faire une description de l'image. Tu vas l'utiliser pendant 2-3 heures, donc tu vas faire ton truc. Et après, tu le mets en pause et donc tu paieras que ces 3 heures d'utilisation.
C'est énorme. C'est énorme parce que, par exemple, on imagine que nous, on a envie de transcrire, de faire une transcription graphique, pardon, textuelle de tous les épisodes. On va prendre une énorme machine là de GPU, T4, machin, Nvidia, qu'on va payer 50 centimes de l'heure. On va balancer tous les épisodes. Pendant une heure, on va bombarder le serveur. Et à la fin de l'heure, on arrête la machine, on la met en pause et on arrête de payer. C'est ça ?
C'est ça.
C'est trop bien.
C'est ça.
Excellent.
C'est pas mal. Et surtout, tu auras juste t'auras ton modèle que tu auras fine-tuné, que tu vas faire tourner dessus sans avoir rien fait. Ça va faire une API. Tu l'utilises, tu mets en pause et c'est terminé. Et donc, voilà, c'est,
classe.
C'est trop bien.
Ben ouais, c'est vachement bien ça. Parce que on n'a pas à gérer toute la partie machine qui coûte quand même beaucoup d'argent.
Il faut le savoir. Ouais. C'est clair que l'IA, en fait, c'est beaucoup d'argent. Ouais.
C'est ça hardware. C'est du hardware spécifique. Et au-delà du hardware, il y a la consommation énergétique qui va avec. Et qui coûte cher, quoi. Donc, si on a un usage, on va dire, très, très limité, on a meilleur temps de payer à l'usage parce qu'avant de rentabiliser les 40 000 $ d'un GPU dédié spécifique et tout ça, on a intérêt à avoir un bon business model, quoi.
C'est clair. Donc ça, voilà, Hugging Face, on a fait le tour. Vraiment intéressant. Donc, franchement, allez faire un tour, créer votre compte et tout. C'est vraiment... Et amusez-vous quoi, avec les modèles et tout. C'est vraiment top. Quoi. C'est top.
Yes, Patrick, mais il y a d'autres solutions parce que moi, je te dis, là, les modèles, ils tournent sur un autre serveur, tout machin. Moi, on va dire que dans ma boîte, on a des spécificités. Il faut que tout reste en local. On ne veut pas balancer sur je ne sais pas qui, des sites obscurs, tout ça. Moi, je veux tout gérer en local. Comment je fais ?
Il y a deux solutions. Alors, j'avais marqué, parce que c'est vrai que je viens de penser, en même temps que tu le disais, j'étais en train de penser qu'il y avait une autre solution.
Ok. Donc, mais c'est quoi Olama. La première solution, c'est Olama. C'est Olama. C'est quoi Olama,
Olama, ouais. Olama, c'est un petit système que tu installes sur l'ordi. Et une fois que tu l'as installé, en fait, tu peux télécharger des modèles et les faire tourner directement sur ton ordi.
Voilà, ah, nice.
Tout simplement.
Et ça marche. Et c'est compatible macOS, Linux et Windows. Et
ouais, tout,
en fait, ça va nous faire tourner les modèles en background. Et après, on a une API, disponible où de la même manière qu'on avait le deploy sur Hugging Face, on va là lui donner accès au modèle et on aura une API. On appelle directement localhost 69, je ne sais plus combien, ou 73, je ne sais plus exactement le port. Mais en tout cas, quand on lance la commande Olama, il va nous dire sur quel port il tourne et on va lui donner, on va avoir, chaque modèle va avoir son endpoint dédié. Et donc, on va pouvoir télécharger tous les modèles. Et là, il y en a plein, non ? Des modèles.
Je ne sais pas combien il y en a en tout. Il y a Llama, celui de Meta, évidemment. Le dernier, c'est 3.3 en plus, je crois. C'est le dernier, celui-là. Ouais.
Oui.
Ouais, c'est 5 semaines, donc il est sorti. Ça, c'est voilà, le dernier, mais après, il y a plein de modèles, il y a d'autres modèles hein, pour les images, tout ça, pour l'AMA 3 de Vision, enfin voilà. Et tout ça tourne sur l'ordi directement. Donc c'est pas mal.
Et le gros
C'est
avantage, c'est
simple.
que ça sort. En fait, on reste tout en local. Il n'y a aucune fuite de données parce que tout tourne sur son propre ordinateur. Par contre, on ne va pas se leurrer. Il faut quand même une machine avec un peu de puissance, quand même. Mais pas spécialement
Ah
du
oui, c'est clair.
CPU, mais plutôt du GPU.
Alors pour le coup, ouais, pour le coup, les Mac, les M1, M2, M3, tout ça, ça s'y prête bien parce qu'ils sont, c'est assez puissant. Mais même avec enfin, suivant le modèle hein, qu'on fait tourner et puis suivant la tâche qu'on demande aussi, ouais, ça peut vite monter dans les tours. Donc moi, je me posais la question, justement, on en parlait juste avant, mais est-ce que sur le long terme, l'ordinateur, ça ne la fatigue pas un petit peu? À voir, mais ouais, voilà. Après, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vrai, c'est bien pour tester des choses, tout ça, en local, développement, etc. T'essayes l'AMA, tout ça. Peut-être après, en prod, il vaudrait peut-être mieux utiliser des API, des API d'inférence, des trucs comme ça. Justement, comme on a vu sur GreenFace ou d'autres trucs, on en parlera après. Mais en tout cas, ça marche très bien. Alors, c'est le dernier épisode qu'on avait fait. On avait demandé s'il y avait des gens qui pouvaient pas coder avec des IA dans leur boîte. Il y en a un qui a répondu,
Merci.
qui a dit que lui, il pouvait pas justement. Sa boîte lui interdisait d'utiliser des IA pour coder. Voilà. Donc ça, c'est une solution justement
Eh ben,
pour coder en
eh
branchant le
mec,
VS Code
regarde,
dessus.
regarde, regarde Mistral. Tu mets Mistral sur ton propre réseau. Tu mets Mixtral pour le code. Alors, je vais te
Avec
le
CodeStrall aussi, je
chercher.
crois, non?
Hop, Mixtral. Et pour le coup, là, il y a quelque chose qui est vraiment optimisé pour le code. Et ça peut tourner en local. Et ça pourra t'aider taquer sur une extension genre Continue Dev ou des choses comme ça. Tu peux brancher directement ton modèle au LAMA dessus. Et donc là, ça passe plus sur les serveurs. C'est tout en local. Il n'y a rien qui sort. Aucune fuite de données. Tout reste en local. C'est une super. Moi, le gros avantage que je trouve en fait de Olama, on va pas se leurrer, c'est que justement, j'ai pas besoin d'installer Python, de faire tourner le modèle un peu à l'ancienne. Là, en fait, c'est un peu le Docker des modèles, quoi. C'est hyper simple. Je prends mon modèle, j'installe mon modèle, il tourne, je le supprime, je fais l'update du modèle s'il y a besoin, et je lance le modèle et j'ai tout de suite un endpoint terminé quoi. Donc c'est vachement plus facile à utiliser. Par contre, évidemment, je vais pas pouvoir en fait faire du fine tuning de modèle parce que là c'est vraiment pour faire de l'inférence, utilisation de modèle, bam, j'utilise ça et ça marche vraiment 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 bien et c'est facile à utiliser, à installer, à mettre à jour son modèle. Parce que quand on fait tout à la main, bah, clairement, c'est galère avec les versions de Python, les versions du modèle, ça a été mis à jour et tout ça. Mais c'est intéressant de comprendre les tenants, les aboutissants du truc, bien sûr, bien sûr.
Et l'autre, c'était quoi? C'était Studio, AI Studio, un truc comme ça? Je ne sais plus comment il s'appelle, non?
Alors là, je ne sais pas.
Si, tu le connais, je crois. Attends,
Mais je le
je vais
connais.
regarder en live.
Ok,
Attends.
ça s'appelle comment?
Ça te dit rien?
Non.
IA Studio ou un truc comme ça, non? Je sais plus.
Ah,
J'ai un trou
peut-être,
comme ça, là, mais bah,
peut-être.
écoute, je me souviens plus. Mais je sais qu'il y en a un autre aussi, pareil, qui te permet d'installer un système en local et tu peux mettre des modèles, tout ça. Bon, j'ai
Ok.
perdu le nom, mais bref, il y en a un deuxième, mais je me rappelle
Yes.
plus du nom.
Petit coup de cœur, quand même, je suis obligé d'en parler. Petit coup de cœur pour Grok, en fait, qui se veut, en fait, et qui insiste. Alors, c'est Grok avec un Q et non pas avec un K, parce qu'avec un K, c'est l'API, c'est l'IA, en fait, de Twitter et Elon Musk, voilà, c'est son truc à lui. Là, Grok, c'est avec un Q. Et donc, en fait, ils se veulent comme l'inférence la plus rapide. Et tu dis, ouais, mais en fait, pourquoi tout ça? Moi, j'ai creusé un peu le truc. Et en fait, ils ont sorti en fait leur propre processeur. leur propre hardware, qui est une sorte de mix entre un CPU et un GPU, mais qui est vraiment optimisé pour faire tourner des LLM. Et donc, c'est pour ça qu'ils arrivent à avoir une vitesse d'exécution hallucinante. Et pour le coup, moi, j'utilise ça pour faire ma correction orthographique. Parce que Patrick peut attester que je fais plein de fautes, mais plein de fautes. Et donc, en fait, j'utilise Grok Cloud avec un petit logiciel sur mon Mac qui va faire appel à Grok pour me corriger les fautes et me retourner le truc. Donc, j'utilise un LLM classique. Pour mon niveau de texte, ça me suffit largement. C'est largement assez évolué. Mais la vitesse d'exécution est juste hallucinante. Et en fait, ils ont un business model qui est très, 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 très avantageux. En fait, tant qu'on n'est pas très gourmand en token par heure, en fait, on paye pas ou très, très peu. Et donc, en termes de ratio token, argent, c'est très, très, très... C'est vraiment pas cher et c'est surtout ultra, ultra, ultra rapide. Alors, quand on parle de token en IA, il y a peut-être une explication à donner.
Ah oui,
ça me paraît important. Quand on parle de token, en fait, souvent, en tant que dev, souvent, c'est nos accès. On parle d'API, des accès, ça va être notre token. On connaît tous le JWT, le JOL token qui va nous donner le jeton d'accès. En IA, souvent, quand on parle des tokens, en fait, ça va être les informations qu'on va lui donner. En clair, quand on va lui donner une instruction, donc dans notre prompt, le modèle en fait va découper le prompt en différents tokens. Alors, c'est pas des syllabes, ça va être des mots, des associations de mots, des choses comme ça. C'est la manière dont il va découper et la toute petite unité, ça va être des tokens. Pour simplifier, on pourrait dire que des mots, mais c'est pas tout à fait ça. Donc, en clair, on va avoir des tokens qui vont rentrer, ça va être la question, la demande, et on va avoir des tokens de sortie, ça veut dire la réponse que le modèle va nous donner. Et donc, en fait, on va payer l'entrée et on va payer la sortie. Mais ça me paraissait important de spécifier...
Ouais, non, mais t'as raison, parce qu'en fait, c'est ce qu'on paye. Donc, c'est
exactement
important.
Exactement.
Et donc, tu utilises des tokens et puis tu payes. Donc,
ouais, c'est ça. Et donc, souvent, en fait, il y a un business model en fait, qui est basé sur le token d'entrée, le token de sortie. Par contre, parfois, sur les images, sur les modèles d'images, ça va être à la seconde d'exécution. On va payer la seconde d'exécution de la machine pour générer l'image. L'image a été générée en 5 secondes. On va donc payer les 5 secondes d'utilisation machine. Voilà. Mais en fait, pour résumer, c'est quand même pas cher. Voilà. C'est ça qu'il faut. Il faut quand même se rappeler. Quoi.
Très intéressant parce que moi j'utilise Kerlig aussi sur mon Mac et je savais pas que je pouvais le brancher à Grok. Je vais le faire de suite après l'épisode.
Non. Tu vas voir, si je t'ai converti à Kerlig, tu m'envoies le plus honoré. Mais je te jure que quand tu vas utiliser Kerlig plus Grok, Non, c'est juste trop trop bien. Ça me fait plaisir, Patrick. Okay. Je viens d'apprendre que tu es rentré dans la secte de Kerlig. Trop bien.
Ah oui. On va parler vite fait de licence open source des modèles, parce que c'est vrai qu'on a évidemment les modèles fermés, OpenAI, tout ça, mais on a aussi des modèles dits open source, entre guillemets, de Mistral, de Meta, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a d'autres, hein, de toute façon, mais voilà, qui se disent open source. Et justement, j'avais trouvé un article sur l'appellation open source des modèles qui est des gens qui ne sont pas vraiment d'accord. Donc, l'Open Source Initiative, en fait, a tout simplement dit que les modèles de Llama et de Mixtral n'étaient pas du tout open source, en fait, parce qu'ils considèrent tout simplement que pour dire qu'ils sont open source, eh ben, il faut en fait donner toutes les informations, toutes les datas d'entraînement, etc. Tout est totalement transparent. Tout doit être disponible et ce n'est pas le cas, en fait, avec ces modèles. Donc, pour eux, en fait, ce n'est pas des modèles open source. Donc, ils refusent, en fait, de les appeler comme ça. Et pour eux même, ils vont un peu plus loin, ils disent même que c'est du open source washing en fait. Donc voilà, ça va assez loin.
Le mot est lâché, donc, le mot est lâché.
Donc moi je suis un petit peu d'accord avec eux, ça fait un peu open source washing, surtout de la part de Meta, mais bon après chacun se fait son opinion. En tout cas l'open source, l'organisation, l'OSI là, a tranché, et désormais pour eux c'est pas open source.
Voilà. Ouais. Non mais après je comprends. Après la vraie question c'est, est-ce qu'on est sur l'épaisseur du trait et où on est sur quelque chose de quand même assez ouvert. Il faudrait quand même pas trop être méchant avec ces gens-là non plus, même si je suis pas fan de Meta et de Marc et tout ça, mais je pense moi aux Français de Mistral et Mixtral qui ont sorti des modèles qui donnent des modèles accessibles gratuitement. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui ont payé l'entraînement. Tu vois, parce que en fait, depuis le départ, on parle d'inférence, tu vois, donc d'utilisation de modèle. Ok, tu payes l'utilisation du modèle. Sauf que ce qui coûte hyper cher, mais vraiment très, 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 très cher, c'est l'entraînement du modèle. C'est en fait de lui permettre d'être en capacité de générer toutes ces phrases avec tous ces modèles-là. On a pris des agrégats de données et on lui a injecté. Et le modèle, en fait, a appris. Mais c'est ça qui coûte de l'argent. Et ça coûte super cher. Donc, OK, c'est pas du full open source. Il faut pas non plus être trop méchant avec eux non plus, quoi. Enfin, tu vois, ils te donnent accès à un modèle de langage qui te permet de faire des phrases en français ou d'écrire du code de manière plus ou moins propre, OK, mais qui te permet de générer du code à partir de rien. Et ça, tu l'utilises gratos, quoi. Tu vois, donc soit.
Ah non, mais je crache pas la soupe. Hein. Mais...
ouais. Après, je comprends que y a cette notion de greenwashing partout, et là, c'est de l'open source washing. C'est aussi peut-être un moyen de se redorer un peu le blason et tout ça. Ok, là-dessus, je veux pas nier. Après, je ne voudrais pas être non plus trop méchant, parce qu'ils nous donnent quand même accès à de la puissance machine que nous, d'un autre côté, on n'aurait pas pu se permettre d'avoir si on était tout seul, quoi. Tu vois, donc... Mais en même temps,
il faut... Mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, par exemple, actuellement, entre OpenAI et Mistral, tu vois, mon cœur balance plus vers Mistral en me disant, déjà, ils sont français un peu.
Frenchy, les gars, Frenchy, top, quoi.
Ouais, en plus, ils ont des modèles open source. Donc, tu vois, je me dis, c'est quand même mieux et tout. Tu vois, et donc, ça penche quand même, ça fait pencher la balance quand même un petit peu, tu vois. Ça, donc, d'un côté, ça marche, quoi.
Mais... Ouais, bon. Mais je suis complètement d'accord. Mais malheureusement, en fait, je ne voudrais pas qu'on tue le produit Mistral sous couvert d'idéologie, tu vois. Ce qu'ils ont réussi à faire, en tout cas, pourquoi moi je suis pro Mistral, tout simplement parce que les gars, ils ont réussi à faire ce que OpenAI a fait avec 10 ou peut-être 100 fois plus de thunes, quoi. Eux, ils ont réussi à le faire avec beaucoup moins d'argent et beaucoup plus de talent et de jus de cerveau. Ils ont réussi à faire un truc de ouf. Et c'est des Français et c'est trop bien. OK, il y a plein de choses à redire peut-être quand tu vas fouiller et quand tu vas regarder sur l'épaisseur du trait et tout. Mais le résultat, c'est que tu as une boîte française Mistral qui est avec des fonds, des financements plus ou moins américains. OK, on s'en fout. Mais en face, tu as Grok X. En face, tu as Microsoft et tu as OpenAI, Meta, Google. Et là, maintenant, t'en as un qui s'appelle Mistral et ils ont réussi à rentrer, à faire des trucs solides, quoi. Donc, moi, je voudrais pas que... j'ai rien contre ce jeune journaliste, plus ou moins jeune, d'ailleurs, je sais même pas qui c'est. Yannick Chavan, très bien. C'est très sympa, c'est très bien, mais sous couvert d'idéologie, je veux pas tuer le projet, quoi. Voilà, c'était...
Ouais. De toute façon, moi, je suis fan de Mistral, et d'autant que les modèles open source actuellement, alors dits open source, sont aussi performants, voire des fois plus performants sur certaines tâches que les modèles fermés. Donc, à ce niveau-là, c'est top. On en reparlera sur d'autres trucs, parce qu'après aussi, il faut faire gaffe aux licences aussi, parce qu'apparemment, il y a certaines licences, alors je pense peut-être à Llama, ou si tu l'utilises dans un business à partir d'un certain nombre d'utilisateurs ou de je sais plus exactement, tu devras peut-être payer quelque chose à Meta. Mais bon, après, j'ai pas été dans les licences tout savoir, mais voilà. Bon, bref, on va passer à autre chose.
Yes.
Vite fait, alors on en a parlé déjà, Python, JavaScript, tout ça, donc les langages pour coder, et notamment avec ce qui va suivre derrière, c'est les RAG. Clairement, ça sera Python ou JS, TypeScript, obligatoirement. C'est-à-dire que PHP, tu peux oublier, et, c'est même pas la peine. Ça n'existe pas, en fait, dans le, tout ce qui est développement, IA, tout ça. Enfin, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de librairie. Tout ça, voilà, c'est même pas la peine. Et les librairies donc, les plus connues, c'est LangChain, qui existe en deux versions, Python et JS. Donc ça, c'est cool. Et donc là, ça permet vraiment de travailler avec des modèles, etc., de chunker, etc. Donc on va parler juste après. Mais il y a toute une librairie de, voilà, de, d'utilitaires pour faire du RAG, pour se connecter, etc. Il y a pas mal d'adapteurs pour tout ce qui est fournisseur, OpenAI, tout ça, Anthropic, etc., déjà disponibles. Donc voilà, LangChain, il y a LangSmith aussi qui est un service qui est lié avec ça, mais qui est, enfin, il y a une version gratuite mais aussi payante, donc qui permet de loguer tout ça, tout ce qu'on fait, etc. Donc voilà, super, okay. Super outil open source en LangChain.
Donc LangChain, en fait, c'est une suite d'outils pour développer un applicatif utilisant des LLM. Et toute la puissance des LLM, aussi bien sur l'extraction de données, le découpage de données ou les choses comme ça, c'est un framework qui va nous faciliter la vie, c'est ça, c'est si ça. On veut intégrer de l'IA dans notre, cœur d'application, quoi. C'est ça.
Ouais, si tu veux développer un système basé sur l'IA, bah c'est, faut passer sur des systèmes comme ça, des frameworks, comme tu dis, ouais. C'est un framework, plein d'utilitaires qui te permettent de gagner du temps. Mais de ne pas réinventer la chaîne à chaque fois.
Ouais, ok. Ça marche.
La chaîne, la, de réinventer la roue.
La roue, la roue. Ouais. Ok. Et ça marche. Et tu parlais tout à l'heure de RAG. En fait, déjà, qu'est-ce que c'est un RAG? À quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant? Un RAG, c'est quoi?
Alors, un RAG, c'est... ça intéresse de plus en plus de boîtes et c'est super intéressant. Ça veut dire Retrieval Augmented Generation. Donc, c'est génération augmentée de récupération en français. Et tout simplement, le principe, en fait, c'est d'utiliser une IA, donc n'importe, hein, que ce soit une API ou n'importe quoi, mais de lui donner un contexte. C'est-à-dire que tu vas lui donner du texte en lui disant « Utilise ce contexte pour répondre à la question et tu sors pas de ça. » Et donc, il va donc utiliser ce contexte et répondre correctement à la personne. Donc, ça peut être pour des chatbots, des choses comme ça. Donc, on peut très bien lui donner le contenu de votre site internet. Ça peut être le contenu d'une FAQ, ça peut être des PDF, ça peut être du texte. Enfin, voilà, tout ce que tu veux. Et à chaque fois, on lui donne du contexte et elle va utiliser ce contexte pour répondre correctement. Donc ça imite. Alors, le grand avantage, c'est que déjà, il n'y a pas besoin forcément de faire du fine-tuning ou de le réentraînement sur vos données. On prend un modèle comme il est. Et surtout, ça évite l'hallucination qu'on peut trouver dans pas mal de modèles, puisqu'on lui dit vraiment, utilise ce contexte et ne sors pas de ce contexte, et tu réponds avec ça. Et si tu ne trouves pas, bah, tu dis que je ne sais pas. Et généralement, ça marche plutôt pas mal.
Ouais, et donc ça, en fait, c'est très intéressant pour, par exemple, des corps de métier très, très, très spécifiques avec des données très, très spécifiques. Par exemple, je ne sais pas, on serait un avocat, on lui donne le droit du travail pour les plus de 60 ans, voilà, par exemple, et on va lui donner à manger ce texte-là. Sauf que le LLM, on va dire dit classique, lui, il ne connaît pas tous ces textes de loi. Ou comme tu l'as dit, sur des FAQ, sur des trucs, sur des corps de métier très 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 spécifiques, le modèle, il est général. Et donc, il ne va pas connaître ces informations-là. Donc, en fait, on va lui donner de l'intelligence dite métier pour qu'il puisse répondre à la question qu'on va lui poser en prenant compte ses propres informations. Ce qui fait que si on lui donne la doc de notre entreprise, potentiellement, en fait, le LLM va juste être là pour générer la phrase. Mais le sens de la phrase va être fait par les infos qu'on lui a données, c'est ça?
Voilà, la connaissance, elle est dans le contexte que tu lui as donné. Et lui, il a juste à générer le texte, ce qu'il sait le mieux faire finalement, faire un résumé, une génération de texte par rapport à quelque chose. Et voilà, un petit exemple concret, Le Bon Coin. Ils ont fait un, ils ont enfin, c'est un peu expérimental, mais ils l'utilisent quand même. Ils répondent à pas mal de questions. Ils ont le service client. Ils ont développé un système qui va répondre à des questions. En fait, ils se sont rendu compte que la plupart des questions étaient répondables, en fait, parce que les réponses sont déjà dans la FAQ. Mais les gens ne vont pas dans la FAQ, ils envoient un mail directement. Et ben, en fait, ils ont fait quoi? Ils ont fait un RAG qui prend les réponses dans la FAQ et qui répond aux gens tout simplement par mail, voilà. Enfin, par le message, quoi. Et donc, ils répondent à peu près 10% des messages comme ça. Généralement, ça marche bien. Voilà, un exemple concret, voilà, de RAG qui fonctionne dans la vie courante, quoi.
Et pour le coup, pour des prestations de sport, par exemple, je pense à des prestations de ski, je dis ça juste par hasard, mais en fait, les clients nous posent toujours, toujours la même question. Et donc, potentiellement, on pourrait facilement, en fait, répondre toujours les questions, enfin, répondre facilement à ces questions par une génération, par un LLM, quoi. Et donc,
C'est ça.
même si le client ne veut pas, ou en tout cas, même la société ne veut pas faire une réponse automatique par un RAG, mais on pourrait générer une réponse automatique. Et après, c'est l'agent qui prend le texte et qui le copie et qui répond à la demande. Donc, il ne faut pas voir ça comme un chatbot qui répond automatiquement, mais peut-être comme un outil pour faciliter le boulot des agents qui répondent aux utilisateurs. Donc, soit on expose directement le chatbot au client, soit on crée un outil qui facilite la vie de l'agent. Et ça peut être super intéressant. Techniquement, par contre, comment ça marche techniquement?
Techniquement, c'est pas hyper compliqué, mais en fait, il y a une phase de. Alors, il y a différentes phases, mais il y a la phase du chunk. Donc, on va découper. En fait, tu vas récupérer toute ta data, tu vas le découper et tu vas le mettre dans une base de données vectorielle. Donc là, on parle de base de données vectorielle, c'est-à-dire que on va transformer le texte en vecteur. Donc les vecteurs, c'est des numéros, des suites de numéros, voilà, c'est des dimensions. Il y a différentes dimensions en fonction de ce qu'on veut comme précision, etc. Ça va être sauvé dans une base de données vectorielle. Et ensuite, on va faire des requêtes et il va trouver par rapport à la requête de la personne. Parce que dans un premier temps, la personne va dire comment je peux faire telle action. Alors on va aller chercher ce qui correspond à ce qu'elle a dit dans la base de données vectorielle et on va récupérer du texte qui correspond à sa requête. Et c'est après ce texte-là qu'on va donner, en fait, au LLM qui va s'occuper de générer la réponse.
Ok, super. Ça paraît complexe comme ça, mais au final, c'est pas si complexe que ça en fait. C'est
Non, c'est pas.
juste, voilà, il y a une première phase d'injection de toute la donnée spécifique qu'on va transformer en vecteur, en base de données vectorielle. Mais je pense qu'on refera un épisode un peu dédié sur les RAG parce que je pense que bah, techniquement c'est super intéressant. On fera aussi sur des bases de données vectorielles pourquoi il y a eu l'explosion où il y a eu plein
Ah
de bases de données qui ont sorti avec des levées de fonds, mais hallucinante et pourquoi en fait ça a amené autant de valeur justement parce que ça ouvre beaucoup beaucoup de perspectives, mais on fera sans doute
Bah le RAG,
un épisode
faut
dédié, quoi.
clairement le RAG en ce moment, ça intéresse beaucoup d'entreprises, donc il y a beaucoup de demandes. Enfin, ça, on est qu'au début, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que. Enfin, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais je me rends compte que en discutant avec les entreprises, tout ça, pour l'instant, ils sont un peu frileux. Ils savent pas trop par où commencer, tu vois. Ils aimeraient faire de l'IA, proposer des services, tout ça, mais ils savent pas trop. Donc, à un moment donné, ça va bouger. Ça bouge déjà. Hein, ils se renseignent, tout ça. Et le RAG, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse beaucoup parce que chatbot. Alors, c'est le retour du chatbot, ça, clairement, mais pas le chatbot pourri qu'on connaissait avant. Hein, c'est le chatbot qui répond bien, en fait. Super. Voilà, même ça peut être du chatbot ou de la documentation en interne, ça peut être, enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait. Et le RAG, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser en fait.
Après,
Autant que
tu
les
vois,
LLM.
tu dis les sociétés sont prêtes, enfin les boîtes sont prêtes, ça va dépendre de la maturité de l'entreprise. Moi, je travaille pour un gros client. Je ne peux pas dire le mot IA. Si je dis le mot IA, pour eux, c'est Terminator, limite, c'est Satan, c'est mal, c'est non, non, surtout pas, quoi. Donc en fait, et j'ai d'autres clients qui disent, qui sont super chauds, qui disent, vas-y, on y va, vas-y, chaud, quoi. Donc, il faut voir à quel niveau de maturité. Par contre, je pense que dire le mot IA ne va pas toujours les aider, enfin ne va pas toujours nous aider. Par contre, que nous, on utilise des IA pour solutionner des problèmes que les clients ont, ouais, ça je suis intimement convaincu que il y a des billets à les prendre sur la table, clairement. Et en fait, nous, on vient avec des solutions techniques qui répondent à un problème. Cette solution utilise l'IA. Et oui, mais vendre l'IA au client, pour lui, c'est une boîte noire, c'est mystique, il comprend pas tout. Il a entendu parler de ChatGPT, mais il a joué avec sur son téléphone, il a posé une question, il a sorti une hallucination, il dit non, mais faut que. Ouais, voilà quoi. Donc il faut bien, je pense, il faut bien faire de la pédagogie, il faut bien lui expliquer comment ça marche et pourquoi en fait. C'est intéressant. Et les fondamentaux, quel problème ça résout, quoi. Et je pense que si on arrive à lui expliquer ça...
Quel problème ça résout. Et puis si jamais tu veux convaincre aussi, c'est d'avoir un POC ou quelque chose qui fonctionne. Et c'est super important que ça fonctionne bien, en fait, pour convaincre direct, en fait. Il ne faut pas que ça déconne un petit peu, tout ça. Il faut vraiment que si tu fais un rag, il faut qu'il réponde bien, correctement à la question, tout ça. Et là, tu vas les convaincre. Parce que là, ça va les rendre fous, en fait. Ouais. Donc on fera de toute façon le RAG, ça mérite un épisode complet parce que rien que les bases de données vectorielles, c'est juste hallucinant, quoi.
C'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. Allez, on va peut-être aborder le dernier penché, on va dire penchant de l'épisode, le dernier chapitre de l'épisode, où justement, une fois qu'on a un peu tout notre système en place, on a vu qu'on pouvait directement détacher le modèle et ne payer que l'inférence parce qu'on gère l'infrastructure et gérée par un tiers. Néanmoins, il y a d'autres possibilités. Si vous êtes déjà à un niveau de maturité assez forte, il y a possibilité en fait de déployer ses propres modèles et comme on peut le faire sur des barres métal où on va prendre notre serveur et on va faire tourner nos applicatifs directement sur des serveurs. Là, on a la possibilité d'acheter des serveurs dédiés et on va faire tourner notre modèle dessus. Là, il y a qui dans la place pour faire ça ?
Bah, toujours les mêmes. Hein. Amazon, Azure, toujours les mêmes. Amazon Bedrock qui te permet de faire de l'inférence, d'entraîner des modèles, tout ça, d'utiliser des serveurs pour le faire. Alors, ne me demande pas les tarifs, parce que c'est Amazon. C'est impossible de savoir combien ça va coûter. Okay. Tous ils proposent aujourd'hui des serveurs où tu peux mettre ton modèle, le déployer, tout ça. Donc, on en a parlé déjà dans Hugging Face, où c'est déjà disponible pour le déployer directement sur ces providers. Donc il y a déjà pas mal de trucs. Et tout à l'heure, tu parlais de Grok aussi. Il y a d'autres services qui proposent aussi. Donc Infomaniac, qui depuis pas longtemps, il propose de l'inférence sur des modèles qui sont open source, sur des tarifs plutôt intéressants. C'est hébergé en Suisse. Tarif modique, pas mal.
Top.
Ils ont Mixtral, tout ça. Et Replicate aussi.
Et dans le même délire où on parlait tout à l'heure de Hugging Face avec le vraiment...
Le 18 centimes.
Pardon ? Oui,
je dois 18 centimes.
Exactement, j'ai ma invoice de 18 centimes chez Replicate. Et Replicate n'est à peu près exactement pareil que Hugging Face, sauf que va pas y avoir tout le dataset d'entraînement. Mais en tout cas, pour faire tourner des modèles, on va avoir exactement la même chose et on va avoir le déploiement via une API et tout. Donc, c'est un concurrent à Hugging Face, clairement. et ce qui nous permet en fait d'avoir plusieurs acteurs qui se tirent la bourre. Et de la même manière, en fait, on va pouvoir utiliser le modèle soit via leur librairie Node, pareil Python ou HTTP, mais en tout cas il y a d'autres possibilités de faire tourner en fait tous ces modèles là directement depuis des serveurs dédiés.
Ouais.
Yes.
Il y a de quoi faire. Et dernier truc, c'est qu'il y a énormément, il y a beaucoup, beaucoup de ressources en fait sur le web. Le fait de l'explosion des LLM, des RAG, etc. Franchement, il y a énormément à lire. Il y a beaucoup de ressources, donc pas besoin de payer des formations ou quoi que ce soit. Tout ce qui est en ligne déjà, c'est largement suffisant, ne serait-ce que sur GinFace ou des choses comme ça. Enfin, la plupart des fournisseurs, des providers d'IA, tout ça, proposent toute une documentation. Il y a souvent beaucoup à lire. Donc voilà, pour se former, c'est pas compliqué, quoi.
Top, top. Écoute Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode-là, le premier de la série IA, où on viendra en fait affiner, peaufiner, plonger en plus en profondeur dans toutes les possibilités qui s'offrent à nous en tant que développeurs et comment on peut tirer parti, nous, de toute cette effervescence liée à l'IA. Et donc... on remercie toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout de l'épisode. Et on vous dit à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.
Yes, plus, ciao.